croisé André Dembouzma au Kasai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Trois firmes de fabrication des produits pharmaceutiques ont été fermées à Kinshasa par le ministère de la Santé. Il est reproché à ces firmes le non-respect de la bonne pratique de fabrication des médicaments, l'insuffisance d'un personnel qualifié, l'utilisation abusive des travailleurs journaliers sous-payés et l'utilisation des équipements et des bâtiments non appuyés. Le circuit de fabrication des médicaments fait défaut. Il a été constaté dans certaines firmes la cohabitation dans un même grand local des bureaux, des salles de mélange, de production et d'emballage. Quel pourrait être, selon vous, l'impact de cette décision dans les processus d'assainissement du secteur pharmaceutique? Nous en parlons avec Faustin Kabeya, qui est pharmacien. J.R. Lungembo, Titi Mputu, Jean-Claude Nsiala réalise cette émission présentée par Pierrot Elamegi sous la supervision de Nicole Ngaka. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamegi.
Après plusieurs missions d'investigation et de contrôle sur terrain, conduites bien sûr par le ministre de la Santé, mais aussi les inspecteurs du secteur des contrôles pharmaceutiques, les décisions sont tombées. La semaine dernière, trois firmes de fabrication de médicaments ici à Kinshasa ont été fermées. Pourquoi? Parce qu'elles ne respectent pas les règles dans la fabrication de médicaments. Plusieurs raisons ont été avancées. Pour vous, quelles seraient l'impact de cette décision dans les processus d'assainissement du secteur pharmaceutique, comme on sait, le secteur qui pose assez de problèmes dans notre pays? Vous pouvez intervenir en direct au 081-890-6315, 081-890-6315. Vous pouvez également déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs et intervenir dans cette émission. Et par rapport à l'assainissement du secteur pharmaceutique, pour le ministre de la Santé, il est inconcevable que les médicaments soient fabriqués dans ces conditions-là, dans ces différentes usines qui ont du temps pour pouvoir s'amender. L'une qui était fermée un peu plus avant a déjà fourni beaucoup d'efforts dans l'amélioration de la qualité de ses services. Le souci pour le ministère de la Santé est d'offrir à la population les médicaments qui sont fabriqués dans les normes, qui respectent les normes, que ce soit dans la préparation, fabrication, la conservation et aussi la distribution. Quel serait pour vous l'impact de cette décision? C'est la question au centre de parole aux auditeurs. Nous allons en parler tout à l'heure avec Faustin Kabeya, qui est pharmacien, avec qui nous allons voir les normes qu'il faudrait respecter dans la fabrication de médicaments. Mais en attendant, vous êtes nombreux à vouloir intervenir en direct dans cette émission, comme Cédric qui nous appelle de Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Cédric, vous êtes avec nous déjà sur les antennes. Bonjour.
Bonjour.
On a des soucis, Cédric, ça sera très difficile pour vous d'intervenir. Votre ligne téléphonique sort très très entrecoupée. Le temps, peut-être que vous puissiez vous repositionner un tout petit peu. On a des problèmes de lignes avec vous à Kananga. Le temps que vous puissiez essayer de vous repositionner un tout petit peu, là, ça peut permettre à ce que nous puissions aller de l'avant. Mais pour le moment, on a des petits soucis avec vous, Cédric, de Kananga. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. En attendant que la ligne de Cédric puisse s'améliorer, nous retournons dans la capitale avec Lambert. Vous êtes avec nous. Bonjour Lambert.
Bonjour, oui, sur le journaliste et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Lambert, pour vous, quel peut être l'impact de cette décision du ministère de la Santé dans l'assainissement du secteur?
Monsieur le journaliste, c'est avec beaucoup de des choix que j'aborde ce sujet, mais je vous dirais, pour répondre un peu de façon un peu participative, je dirais que ça, on aura un impact négatif. Pourquoi? puisque, comme vous le savez, la RDC, ou soit nos autorités, c'est comme on a toujours. L'homme est né bon, mais c'est le monde qui le rend mauvais. Mmh. Vous allez constater que dès que le ministre de la Santé publique a pris cette initiative d'effectuer un peu les contrôles dans les différents dépôts, soit usines de fabrication de médicaments en RDC, comme les gens ont vu qu'il y a maintenant un problème sérieux, il y a un peu de la rigueur, il faut courir derrière les mêmes ministres avec des paquets, tout ça, d'argent, pour qu'il puisse un peu asseoir sa décision. Ça, c'est de un. Si de l'autre côté, il ne réussissent pas, il faut encore toucher d'autres instances qui ont un peu une même mise sur soit qui est occupée, un peu influencer de façon négative la décision du ministre. Donc, c'est ça les grands problèmes que nous avons. Et en plus, moi, je reviens sur un peu ces points là où je ne suis pas d'accord avec notre gouvernement. Comment on peut expliquer dans un pays comme la RDC, nous avons une direction, si pas l'organisation des pharmaciens, l'université de Kinshasa forme les pharmaciens, on a des spécialistes, et avant qu'on puisse mettre en fonction, ou soit opérationnaliser un dépôt pharmaceutique, il faut d'abord un contrôle. Il faut d'abord évaluer ça, les paramètres, pour dire que non, les dépôts, soit les usines, et cette usine correspond quand même aux standards demandé par le gouvernement de notre pays. Et d'emblée comme ça, comme c'est une activité qui va quand même...
Oui, Lambert, s'il vous plaît.
Oui.
Bon, voilà. Et peut-être qu'on ne pousse pas à se perdre tellement. Nous disons ceci. Il y a déjà des usines qui fabriquent le médicament. D'ailleurs, je salue l'entrée dans ce studio de notre invité, Faustin Kabeya, avec qui, parce que vous avez évoqué les spécialistes, il est spécialiste pour nous donner assez d'éclairage dans cette émission. Mais je reviens un peu à la problématique. Cela veut dire qu'on se rend compte, le ministre descend sur terrain, il se rend compte qu'il y a des usines qui fabriquent les médicaments, mais qui ne respectent pas les normes. On a évoqué assez des griefs, n'est-ce pas? Il y a, par exemple, on parle du non-respect de la bonne pratique des fabrications, l'insuffisance d'un personnel qualifié, l'utilisation abusive des travailleurs. Il y a autant de points. Et le ministre dit, monsieur, vous arrêtez, vous n'allez plus continuer à fabriquer les médicaments jusqu'à ce que vous puissiez améliorer. C'est ce que nous voulons savoir. Le fait déjà d'avoir fait le premier pas, d'avoir contrôlé, d'avoir vu que ce qui ne marche pas, on arrête et puis on va améliorer. Vous pensez que cela ne peut pas avoir de l'impact pour assainir les secteurs?
C'est-à-dire quoi? C'est déjà un pas, je dirais, positif pour notre gouvernement et pour la protection de la population congolaise. Mais ce que je suis en train de craindre, c'est que, bien qu'il a monté cette mesure, vous allez voir qu'au lieu de continuer, parce que ces gens-là, soit les trois usines-là ciblées, ne sont pas celles. Vous allez voir qu'il y a d'autres usines qui sont en train de fabriquer les médicaments à MDC qui seront peut-être sauvegarder ou épargner de ces contrôles-là.
Ah voilà, oui, là je vous écoute, Lambert. Votre souci, c'est que vous avez peur qu'il y ait du trafic d'influence, de la corruption dans cela, et que les autres usines aussi qui ne répondent pas aux normes puissent continuer à fonctionner compte tenu du trafic d'influence. C'est ça votre crainte. Merci beaucoup, Lambert. Dido, vous êtes à Kisangani, en province orientale. Bonjour, Dido.
Bonjour, la radio Capi.
Vous avez suivi l'inquiétude de notre premier auditeur, Lambert de Kinshasa. Il salue la décision du ministre de fermer les trois usines pour non-respect des normes dans la fabrication des médicaments, mais il a peur qu'il y ait le trafic d'influence après cette décision, la corruption, on sait tout ce qui peut se dérouler après, et que le travail ne puisse pas s'étendre sur l'ensemble du pays et des fois toucher aussi d'autres usines. Pour vous, pour éviter qu'on tombe dans c'est quelqu'un, Lambert, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette mesure puisse avoir de l'impact du dos?
Oui, quant à moi, je salue cette initiative du gouvernement. Vous savez bien, la santé n'a pas de prix. Avec ces différentes proliférations, je pense que ce n'est pas mieux que ces usines-là puissent fabriquer des médicaments qui ne conviennent pas pour la santé des individus. Donc cette initiative du gouvernement, c'est louable, quant à moi.
Voilà, vous pensez que l'initiative, elle est louable. Merci beaucoup, Dido de Kisangani. De Kaba, vous êtes à Kamina, dans la province du Katanga. Bonjour. De Kaba, vous êtes avec nous. Bonjour. le temps qu'on puisse revoir sa ligne directement. Nous revenons dans ce studio. Faustin Kabeya, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pharmacien. Est-ce que vous êtes toujours dans la direction de l'ordre à Kinshasa?
Non, je suis un président honoraire de l'ordre provincial de ville de Kinshasa.
Merci. Et nous faisons le débat. En fait, tout est parti de la décision du ministère de la Santé de fermer 3 usines de fabrication de médicaments à Kinshasa pour non-respect de normes. Au niveau de la corporation de pharmaciens, quand il y a une décision comme ça, comment vous réagissez?
Il faut dire qu'au niveau de la corporation, on devrait avoir un pincement au cœur, parce que l'ordre de pharmaciens a comme mission première de protéger la santé publique de la population. Et quand l'ordre de pharmaciens constate qu'un pharmacien, de par son comportement, a mis en danger la santé publique, l'ordre de pharmaciens ne peut que être malheureux dans son cœur. Et d'autre part, la réaction doit être celle de déférer tous les pharmaciens qui, de par leur comportement, ont mis en danger la santé publique devant la chambre de discipline. C'est inacceptable qu'une maison autorisée avec un pharmacien responsable se retrouve dans des fautes professionnelles. Ce n'est pas acceptable.
Et pour qu'on en arrive, bien sûr, à ces décisions du ministre, selon ce qui a été fait, il y a des inspecteurs qui passent dans toutes ces usines qui ont été fermées, mais qui croisent ces pharmaciens. Parce que quand vous lisez les médias, il y a le pharmacien dans une usine qui n'a pas pu donner assez d'explications au ministre. On peut dire qu'il y a, entre le moment que le ministre fait ses constats sur le terrain et décide de fermer ces usines, qui a un laissé-aller dans les contrôles, qui avait, si on peut utiliser les termes, un laissé-aller dans les contrôles. Et à ce niveau-là, où se trouve la responsabilité de la corporation des pharmaciens?
Malheureusement, la corporation se trouve être responsable et du pharmacien inspecteur et du pharmacien responsable de l'usine. Voilà pourquoi je dis la corporation doit être doublement malheureuse. En fait, le ministre a pris une première décision, parce qu'il était devant une flagrance. Il a pris la bonne décision de dire, vous fermez et vous n'ouvrirez que quand vous aurez rempli. Quand vous aurez amélioré. Mais la deuxième décision devrait être celle de regarder dans sa propre maison, je veux dire dans l'administration du ministère de la Santé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas le rôle du ministre de faire l'inspection et de constater ce qu'il a constaté, pendant que les inspecteurs passent régulièrement. Donc il y a un problème dans le corps des inspecteurs. Et le ministre devrait, en principe, prendre une deuxième décision contre son administration.
Parce que ce sont eux qui sont à la charge de contrôler régulièrement la manière dont les choses se passent dans ce film.
Tout à fait, oui. Le ministre devrait, en constatant cela, se retourner vers son administration pour poser la question. Depuis quand ça? Et pourquoi ça persiste comme ça? N'est-ce pas? Et s'il n'a pas de réponse, les têtes doivent tomber et nous attendons ça. Nous nous disons quelque part, le disciplinaire doit est pris en suspens par rapport à l'administratif. Les inspecteurs devront être d'abord sanctionnés administrativement et après, la corporation devra les sanctionner disciplinairement. Ça ne peut pas se passer comme ça. Sinon, qui protège la population? Ni le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, à travers son administration, ni la corporation, l'ordre des pharmaciens, à travers ses chambres disciplinaires, personne ne protège la population. Et ça, c'est pas acceptable, ça.
Voilà. Mais ça, c'est dans le domaine du général, si je peux dire ainsi, parce que là, on parle de comment ça devait se faire d'une manière technique et administrativement parlant. Mais pour revenir maintenant au grief, on parle de non-respect des normes. Vous êtes spécialiste. En principe, pour que quelqu'un, Pierrot, je veux avoir une usine de fabrication des médicaments, quelles sont les conditions que je dois remplir en principe pour dire que je suis dans les normes de fabrication des médicaments?
Ben, écoutez, Monsieur Pierrot, encore une fois, j'ai sous mes yeux un document qui s'appelle arrêté portant réglementation du secteur pharmaceutique en République démocratique du Congo. C'est en fait le référentiel que doit avoir en main chaque inspecteur quand il descend vers l'usine ou quand il reçoit le dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'un opérateur économique. Il est même dit que les étrangers qui arrivent chez nous et qui veulent investir, on va les orienter vers les usines pharmaceutiques, là où ça demande quand même un peu plus de capitaux avant d'ouvrir. Mais alors, l'opérateur économique qui vient, il commence par d'abord prendre le service d'un pharmacien. Et l'arrêté du ministre dit clairement qui doit être le pharmacien responsable d'un laboratoire. On dit il doit être pharmacien spécialiste en laboratoire pharmaceutique ou en fabrication de médicaments, ou alors justifié de 3 ans au moins d'expérience dans un laboratoire de fabrication de médicaments. Alors, quand on a pris un pharmacien comme celui-là, il ne peut pas travailler seul dans une usine pharmaceutique. Il doit avoir soit un ou deux assistants pharmaciens et trois ou plusieurs assistants en pharmacie, qui sont en fait nos collaborateurs directs, qui sont du niveau D6. Voilà comment on s'installe. Alors, pour s'installer, il y a aussi les conditions les normes en fait, quand on parle de la surface, quand on parle des différentes pièces et comment on doit les agencer, et le laboratoire de contrôle de qualité est impérieux. Aucune usine ne peut se mettre à fabriquer des médicaments sans avoir un laboratoire interne de contrôle de qualité.
Est-ce qu'il y a aussi une contre-expertise extérieure?
Non, mais l'arrêté, et là nous avons toujours condamné l'arrêté du ministre de la Santé, qui dit que le laboratoire de fabrication doit avoir son laboratoire interne de contrôle de qualité, et c'est seulement s'il manque de laboratoire interne de qualité qu'il peut aller à l'extérieur, voir un laboratoire agréé.
C'est-à-dire qu'en principe, il faudrait aujourd'hui, en dehors du laboratoire de contrôle interne, que ces médicaments soient aussi
contrôlés par un laboratoire indépendant
avant qu'ils soient mis.
Absolument.
Et ça nous manque aussi.
Oui, pour protéger la population, il faudrait qu'il y ait ce double contrôle-là. Parce que qu'on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, le laboratoire interne a failli. Et c'était prévisible. Comment voulez-vous que l'opérateur économique puisse acheter l'équipement nécessaire pour faire les analyses en interne, puisse acheter régulièrement les réactifs pour faire les analyses à l'interne, quand il sait que si je n'achète pas l'équipement, si je n'achète pas les réactifs, ça me fait moins de dépenses, moins de charges, et d'autre part, il n'y a pas de contrôle. Voilà comment la population est exposée.
Et voilà. Mais est-ce qu'il y a, en dehors du fait qu'il y a les inspecteurs du ministère qui doivent étudier les dossiers, voir le sur terrain, si toutes ces conditions sont respectées, il y a d'autres services aussi de l'État qui sont associés à cette étude avant qu'une usine puisse s'installer? Je veux parler de l'environnement, je ne sais pas encore quel autre service.
Oui, absolument. Mais tous ces services-là viennent après le ministère de la Santé. Il faut absolument que le ministère de la Santé vous donne son autorisation. Le ministre lui-même doit signer cette autorisation avant que l'environnement ne vienne pour vous donner le permis d'exploitation. Mais le premier, c'est le ministère de la Santé. Donc ici, la responsabilité, c'est le ministère de la Santé à travers son administration. Alors, quand on pose la question de savoir, le ministre sait qu'il a vu là, oui ou non, les inspecteurs avaient vu ça?
Mais la réponse, c'est là où se trouve le problème.
Mais oui, un inspecteur qui arrive, qui trouve que les conditions dans lesquelles on produit les médicaments, c'est des conditions inacceptables. Ça expose la santé de la population à un danger. Et l'inspecteur qui dit, vous allez continuer à produire dans les mêmes conditions et je reviendrai dans 6 mois pour voir si vous avez amélioré. Quelque part, c'est illogique et c'est criminel, c'est irresponsable. Comment on peut dire, continuez dans les mêmes conditions et je reviendrai dans 6 mois pour voir si vous avez amélioré? C'est une façon de dire continuer comme ça.
Et quand j'ai lu le rapport, n'est-ce pas, le passage du ministre, on parle même de intrants, des produits chimiques qui sont gardés dans des installations sanitaires sales. C'est des choses, des fois peut-être qu'on ne peut pas se taper les mains en parlant de choses comme ça, mais à un certain moment, ce sont des accusations quand même assez graves.
Mais c'est comme ça que moi je dis, si jusqu'aujourd'hui les têtes ne sont pas tombées dans l'administration de la santé, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
Voilà, nous allons revenir après par rapport à l'impact de ces premières mesures dans la l'assainissement du secteur, parce qu'on a eu fait plusieurs émissions d'ailleurs avec vous pour voir comment on doit assainir le secteur pharmaceutique. C'est un secteur très important. Nous allons aussi écouter Dekaba qui est à Kamina, Arsène qui est à Kikwit, Divin qui est ici à Kinshasa. Dekaba, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
Et vous avez suivi les explications données par l'invité, trois usines de fabrication de médicaments fermées ici à Kinshasa pour non-respect des normes. Et pour vous, quel peut être l'impact de cette décision dans l'assainissement du secteur pharmaceutique?
Oui, d'ailleurs, si nous jetons d'abord un coup d'œil dans le secteur de la santé, vraiment c'est déplorable. Vous trouverez que, premièrement, il y a même des pharmacies là que vous trouvez les gens qui vendent un peu de médicaments. Ces gens-là ne sont pas habilités. Et d'ailleurs, nous qualifions ces pharmacies là comme des bigaploups plutôt. Alors, par rapport à cette à la solution du ministre, moi je ne peux pas dire que c'est une bonne chose. La solution, parce que moi je suis économiste, je suis futur économiste. Alors, la solution est que il faut que l'État applique ce qu'on appelle le marché de concurrence pure et parfaite. C'est un marché où l'adaptation se fait sur la quantité, la qualité ainsi que le prix. C'est-à-dire, il faut que l'État, je ne sais pas si l'État a ses propres structures. Si l'État n'a pas ses propres structures, il faut que l'État s'approprie ce secteur en créant ses propres structures, habilitées, c'est-à-dire ses propres usines. Moi, je pense que c'est la solution est bonne. Parce que nous l'avons vu comme Matata l'a fait dans le secteur des transports, avec l'acquisition de 200 bis. Parce que ces gens-là n'ont pas leur concurrent pour améliorer le travail. Alors, si le gouvernement arrive à mettre ce marché-là, moi, je pense qu'on apporterait un peu de solutions à ces problèmes-là.
Merci beaucoup, Dekaba. Vous pensez que le problème, ce n'est pas seulement de fermer les usines privées qui existent, mais c'est aussi de voir l'État congolais se doter des usines de fabrication des médicaments qui vont respecter les normes, et cela peut résoudre le problème de qualité de médicaments qui peuvent être mis en circulation dans notre pays. Vous souhaitez que l'État, à l'instar de ce qui s'est fait dans le domaine du transport, que l'État puisse avoir aussi ses structures, ses usines de fabrication de médicaments. Merci, Dekaba. Arsène, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, Monsieur Firo.
Vous avez suivi les uns et les autres. Nous dégageons d'abord ce qui peut être comme l'impact de cette mesure dans l'assainissement du secteur. Mais il y a aussi cette proposition de notre ami Dekamina qui pense que l'amélioration dans le secteur passe aussi par les usines de l'État dans la fabrication des médicaments où on peut mettre du sérieux. Et comme ça, ça peut porter aussi un coup au privé et les stimuler à améliorer la qualité de leur travail. Votre point de vue, Arsène?
Bon, mon point de vue est un peu simple. Je félicite d'abord la décision du ministre, mais je regrette que ça soit en retard. Pourquoi en retard? Parce que le médicament, la santé humaine, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'amuser avec comme nous nous amusons avec d'autres départements ici. Une fois, je disais, le ministère de la Santé, il y a un ministère qu'on peut encore mettre un peu de l'espace, c'est ce ministère-là. Mais il y a aussi des failles. Aujourd'hui, le ministre vient prendre cette décision en retard, mais maintenant le problème c'est de l'appliquer, appliquer cette mesure. Et il faut être sévère dans les histoires qui contribuent directement à la santé humaine. Parce que la santé humaine n'est pas seulement physique, la santé est aussi morale. Il faut nécessairement mettre en application ces décisions-là. Pour ce qui concerne l'idée de notre collègue de Kananga, je crois.
De Kamina, oui.
De Kamina, c'est pas mal. Mais il faut voir un peu l'État, comment aussi il s'organise dans ces histoires. Aujourd'hui, on peut avoir une usine de l'État qui doit fabriquer les médicaments. Est-ce que l'État saura bien payer ses travailleurs pour qu'ils ne puissent pas se méconduire? Mais moi, j'insiste sur le point que la santé humaine, ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'amuser. Nous avons l'art de nous amuser avec beaucoup de choses, mais du côté santé, il ne faut pas s'amuser. On a fermé les usines, maintenant allons vers les distributeurs. Il n'y a pas d'énergie électrique. Il y a des médicaments qui demandent une température constante. Il y a des médicaments qui demandent des soins appropriés. Il y a par exemple des vaccins où il faut conserver à une certaine température. Est-ce que nos distributeurs qui sont à la cité, est-ce qu'ils ont le moyen de faire ça? La SNEL, aujourd'hui à Kinshasa, la SNEL dit qu'il y aura des délestages à l'intérieur. Ici à Kikwit par exemple, nous n'avons pas d'énergie. Il faut attendre Kakobo, je ne sais quand ça va venir. Tous ces éléments-là contribuent. La décision du ministre ne peut pas s'asseoir sur du papier. Ça doit s'asseoir sur un socle solide pour que dans l'avenir, nous puissions voir des médicaments corrects dans nos dispensaires, dans nos pharmacies de distribution et dans les usines. Voilà un peu mon intervention.
Merci. Merci beaucoup. Et Arsène, vous soutenez la décision du ministre. Vous voulez qu'il y ait une sévérité, n'est-ce pas, dans l'exécution. Il y a un ami de Kinshasa, Lambert, qui avait peur, qui disait, bon, qu'il a peur qu'il y ait des trafics d'influence dans les domaines des intimidations, s'il faudrait utiliser les termes, mais la corruption aussi peut passer par là, et faire à ce que les décisions ne soient pas exécutées comme il faut, voire même le contrôle s'arrêter à un certain niveau. Mais vous allez au-delà des usines. Vous pensez aussi qu'il faut poursuivre avec les actions vers les distributeurs, ceux qui conservent le médicament, ceux qui les vendent au niveau de la cité. Comment cela s'est fait et l'ensemble de tout cela sur un socle solide, ça peut permettre à ce qu'on puisse améliorer ce secteur qui est très sensible pour la population. Merci beaucoup, Arsène Dikin. Divin, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Divin.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi notre ami Arsène qui est à Kikwit. Il pense qu'au-delà de la fermeture des usines, il faut que le travail s'efface aussi jusqu'à sur terrain. Votre point de vue par rapport à l'impact de cette décision?
Très bien, je salue d'abord votre émission, c'est très intéressant.
Mm-hmm.
Comme mon ami vient de le dire, que ceci vient en retard. Et je salue aussi la sanction du ministre, son démarche, c'est très bien. Mais une chose que nous pouvons un peu déclarer, c'est quoi? Vous savez, ce n'est pas d'abord au ministre de défendre ses terrains pour aller se tuer, pour aller inspecter les usines. Parce qu'il y a les inspecteurs judiciaires ou dans le secteur de la santé qui pouvaient le faire. Et le ministre, avant de sanctionner, il pouvait d'abord observer si les usines-là n'ont pas été inspectées par les inspecteurs chargés. Qui avait des inspecteurs qui avaient inspecté les usines-là. Mais c'est aux inspecteurs-là que d'abord le ministre pouvait commencer à sanctionner. Ça, c'est d'abord le premier point de vue que moi je trouve un peu ça. Deuxièmement, qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons très bien que si l'État congolais veut encourager des initiatives, lorsqu'il trouve qu'il y a des handicaps quelque part, qu'est-ce qui manque à l'État? C'est-à-dire, ici vous manquez ceci, nous vous ajoutons, ça peut quand même se récompenser par les impôts pour que les entreprises soient toujours mouvementées. Parce que s'il ferme 3 entreprises, vous pensez combien il a envoyé des personnes en chômage. Or, le taux de chômage dans notre pays, on n'en parle plus. Alors, il pouvait les encourager, même avec des sanctions, pour ne pas fermer, que de fermer et créer encore le trouble qu'il a créé ça. C'est pourquoi moi je pense que, ministre, la mesure prise n'est pas mauvaise, mais il pouvait quand même suivre quand même la procédure qui pouvait permettre aux autres de bien fonctionner. L'État n'est pas là seulement pour sanctionner, mais pour donner directement des mesures pour suspendre, mais il pouvait aussi quand même aussi orienter les usines-là. Mais moi je pense qu'il y a des inspecteurs qui sont là, qui pouvaient quand même faire ce travail-là, lui faire les rapports et trouver quand même ensemble donc, on veut faire pour quand même le survie de ces usines-là. C'est ça, moi, mon point de vue que je pense.
Merci beaucoup Divin. D'ailleurs il y a une commission qui a été formée au niveau du ministère de la Santé conduite par le président de l'Ordre national du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui une commission de 12 membres ils sont descendus sur terrain, ils ont inspecté et d'ailleurs ils avaient déjà tiré la conclusion selon laquelle il fallait qu'on puisse carrément fermer d'autres usines et ils ont fait rapport au ministre et le ministre aussi a tenant compte bien sûr de ces rapports. rapport de cette commission ad hoc, on a pu décider de fermer ces usines. Mais d'ailleurs, la commission elle-même a proposé qu'on puisse poursuivre le travail même au niveau dans les dépôts. Mais merci beaucoup, Divin. Mais vous pensez, au-delà de la fermeture, il faudrait qu'au niveau du ministère de la Santé, qu'on puisse aussi orienter et encadrer les détenteurs, n'est-ce pas, ceux qui détiennent, disons, ces usines de fabrication de médicaments, pour voir comment ils peuvent améliorer la qualité de leur travail. Ogu, vous êtes à Kikwit, dans la province de Bandundu. Bonjour.
Bonjour, je suis Ogu Benlelo, depuis le PIPS, merci. Nous saluons la décision car elle est bonne. Vous savez aussi, monsieur le journaliste, que la santé n'a pas de prix. Alors, ce que je voulais faire comme appel à notre gouvernement, qui ne puisse pas s'arrêter à ce niveau-là, parce que, dorénavant, nos grands frères nous racontaient que c'est d'autres pays qui venaient se faire soigner au Congo. Mais aujourd'hui, pourtant, le Congo est riche en sol et sous-sol. Nous voyons que ça fait maintenant le contraire. C'est nous qui partons à l'étranger pour nous faire soigner. Or que les matières, les pierres précieuses et toutes les choses, c'est nous qui en possédons. C'est pourquoi notre gouvernement ne peut pas s'arrêter à ce niveau-là. Car à partir de voir les usines qui fabriquent en mauvais état des médicaments, nous voyons aussi au milieu où nous vivons, messieurs les journalistes, trop de produits pharmaceutiques qui manquent même de péremption, si vous permettez. Et cela sont dit à partir de ces usines-là qui sont en état d'alébrement et mauvaises conditions de fabrication des médicaments. C'est pourquoi que l'État puisse établir des gens doués pour continuer à faire des enquêtes, parce que ces usines-là ne sont pas seulement à ces nombres-là. Si les enquêtes continuent, mais si les journalistes, vous allez remarquer qu'il y a aussi d'autres qui se cachent là. Alors, que l'État puisse continuer des recherches, des enquêtes pour sanctionner et pour continuer aussi, même dans des milieux urbains et ruraux, voir les pharmacies qui sont dans mauvais état et les fermer. Comme ça, la santé de la population pourra s'améliorer de plus en plus. Voilà, en bref, ma préoccupation. Je vous remercie.
Merci, Ogu. Vous pensez qu'il faudrait que l'État puisse poursuivre jusqu'aussi au-delà de ce qui fabrique, voir aussi ce qui conserve, ce qui s'efface à ce niveau-là, et voir comment protéger la santé de la population. C'est presque le souhait de tous les auditeurs de voir ce travail se faire jusqu'au fond. Et ne plus s'arrêter en chemin et aller même au-delà des usines qui sont en train de fabriquer. On va accorder tout juste après quelques secondes la parole à notre invité pour qu'il puisse commenter les points de vue des auditeurs, mais voir aussi concrètement comment on peut sortir de cette situation, parce que c'est pas aujourd'hui que cela a été constaté sur terrain. 081 890 63 15, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, Parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons à vous, Faustin Kebeya. Vous avez suivi nos auditeurs. Ils se dégagent un souci. D'abord, c'est l'inquiétude. Il y en a qui sont déjà découragés. Ils ont peur que l'initiative du ministre s'arrête en route. Il y en a aussi qui ont peur qu'il y ait des trafics d'influence, parce qu'on ne sait pas qui est derrière quelle usine, et que cela s'arrête aussi. Mais nombreux souhaitent que cela parte au-delà même des usines, voir les dépôts, voir toute la chaîne de manipulation de médicaments. Vous allez réagir à ces propos-là des auditeurs, mais je veux aussi savoir, ça, une question à laquelle vous allez nous donner la réponse juste après la réaction par rapport aux auditeurs. Est-ce que tous les inspecteurs qui sont au niveau du ministère de la Santé, ils sont tous membres de votre corporation, est-ce que vous savez comment travaille-t-il vraiment au niveau de la corporation?
Ok. Merci Pierrot pour la parole. Je voulais dire que les auditeurs ont carrément un peu ramassé les pistes de solutions par rapport au problème. Et il faut dire aussi que c'est un problème de tous les jours, que nous vivons tous les jours. Ça fait que les auditeurs sont intéressés et d'autre part, ils ont des points de vue assez précis est assez rodé comme ça. Je voulais dire ceci. Le ministère de la Santé a le pouvoir réglementaire. N'est-ce pas? Il y a un auditeur qui a dit pourquoi le ministère de la Santé ne pourrait pas avoir ses usines, il ne pourrait pas avoir ses établissements de distribution et ses pharmacies. Non, le ministère de la Santé a le pouvoir réglementaire. Ça signifie que les privés peuvent s'installer comme producteurs, ils peuvent s'installer comme distributeurs, ils peuvent s'installer comme officine pharmaceutique. Et à ce niveau-là, le privé serait un pharmacien. Mais alors, le ministère de la Santé vient en pouvoir réglementaire, il réglemente. Ici, pour réglementer, il y a par exemple deux points essentiels que j'ai relevés ici. Il y a ce qu'on appelle le circuit de distribution des médicaments, qui doit être respecté en principe. Si on respectait le circuit de distribution des médicaments, le médicament ne se retrouverait jamais entre les mains inexpertes. Parce qu'il y a un auditeur qui s'est plaint, on trouve dans une pharmacie quelqu'un qui n'a pas la qualité et qui n'a pas la formation, mais qui est là et qui distribue des médicaments qui sont de qualité et d'origine douteuse. Et tout simplement parce que là, le médicament a quitté le circuit de distribution des médicaments. Un circuit qui est fortement réglementé, qui en principe devrait être respecté et fait respecter par les inspecteurs. Alors, au niveau des producteurs, l'État, dans son pouvoir réglementaire, devrait avoir un outil indispensable et incontournable, qui est le labo national, je pourrais dire, de contrôle de qualité des médicaments. De façon que un médicament, avant qu'il soit mis sur le marché, il doit passer par ce laboratoire-là, et ce laboratoire-là, c'est pour l'État. Ce n'est pas pour un privé qui viendrait pour faire des faveurs à ses collègues du secteur ou quoi. Mais ça devrait être pour l'État. Et l'État devrait disposer de cet outil-là. Hein? Et d'autre part, on parle de personnel de ces usines qui ont été mises en chômage. Non, c'est une fermeture temporaire. Mais d'autre part, faut-il sacrifier toute la population parce qu'un groupe d'individus trouve du travail? Non. Dans le pouvoir réglementaire de l'État, l'État a dit, vous allez vous installer en usine, voilà les normes à respecter. N'est-ce pas? Si on ne respecte pas ces normes, ben c'est normal qu'on vous ferme. On ne peut pas vous laisser continuer à exposer la population à des maladies, à des médicaments toxiques et tout ça, parce que vous devrez avoir du travail. Alors, le pharmacien inspecteur, il est à la fois sous le statut particulier du fonctionnaire de l'État et il est à la fois membre de l'ordre. Ça signifie tout simplement que sous la déontologie pharmaceutique, il peut aussi être sanctionné. Mais le double sanction là, apparemment, n'arrive pas à changer le comportement du pharmacien inspecteur. Le pharmacien inspecteur est resté le fonctionnaire comme tous les autres fonctionnaires. Et lui aussi, il a ses faiblesses. Ben, on dira ici peut-être que les fonctionnaires sont mal payés, mais on devrait se dire, mais le pharmacien, lui, devrait avoir doublement peur d'une partie, d'une part, être sanctionné par sa hiérarchie ou bien par l'administration, et d'autre part, être sanctionné par sa corporation. Mais tout cela ne lui fait pas peur. Et voilà la situation que nous vivons aujourd'hui. Sinon, ils sont membres de l'ordre et
Mais est-ce que l'ordre, de temps en temps, les
sanctionne aussi?
Ah, c'est voilà la question que j'allais poser. Si on se rend compte qu'il y a un membre de la corporation où les gens ne changent pas, ou soit ce sont les sanctions qui sont devenues inefficace, où il y a une camaraderie, si on peut utiliser les termes, qui s'est créée entre l'autorité et celui qui doit exécuter les ordres. Quand à un certain moment, celui qui exécute les ordres dit, ben, je m'en fous, que je fasse ou que je ne fasse pas. Bon, de toute façon, nous allons régler ça. Peut-être quand il y a cette légèreté qui s'installe dans les relations, que ce soit au niveau de la corporation, au niveau même de la gestion des inspecteurs par leur patron qui est le ministère de la Santé, dès que cela s'installe, il y a un laisser-aller et les résultats, c'est arrivé à ce qu'on déplore aujourd'hui.
Non, mais il y a une chose qui pose réellement problème au niveau de l'ordre. Quand l'ordre a sanctionné un pharmacien, normalement, on s'adresse à son employeur. Dans le cas d'espèce, l'employeur se trouve être l'État. On écrit au secrétaire général à la santé, avec copie au ministre, pour dire tel pharmacien inspecteur a été sanctionné par l'ordre. normalement, il doit cesser de travailler pendant 6 mois. Mais ce n'est pas toujours évident que l'employeur qui se trouve être le secrétaire général ou le ministre de la Santé puisse exécuter la décision de l'ordre. C'est là où ça pose réellement problème. Au point où l'inspecteur se dit, l'ordre m'a sanctionné, mais moi je vais voir le secrétaire général, je vais m'arranger avec lui pour que la décision de l'ordre ne soit pas exécutée. Mm-hmm. Cela est déjà arrivé.
Mais je crois malheureusement que la procédure la plus efficace, peut-être à ma connaissance, dans le cas de ces usines qui ont été fermées, qui ont fonctionné dans les conditions qu'on déplore, c'est que le ministère, en tant qu'employeur des inspecteurs, pouvait dire, vous m'avez induit en erreur, vous avez laissé ces usines fonctionner dans ces conditions, on vous suspend, et puis on vous met à la disposition de la corporation, et la corporation aussi se prononce. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça.
Nous pensons que c'est la procédure normale, et que... ne perdons pas espoir, cela pourra arriver. Nous pensons que c'est la procédure normale de la part du ministre, il devrait réagir comme ça. Parce que j'ai dit au début ici que nous considérons nous que l'administratif tient le disciplinaire en suspens. Nous attendons qu'administrativement il soit sanctionné et après nous allons le récupérer de façon disciplinaire pour qu'il puisse répondre. C'est pas normal ça.
Mais avant d'écouter les auditeurs, vous avez souhaité que l'État puisse avoir un laboratoire qui puisse contrôler la qualité des médicaments qui sont fabriqués sur place. Mais ces médicaments sont juste certifiés par leur laboratoire de contrôle interne. Mais bon, peut-être que c'est pas le sujet, le débat, parce que nous avons parlé des médicaments fabriqués au pays. Mais ceux qui viennent de l'extérieur, comment sont-ils certifiés avant qu'ils soient utilisés en RDC?
Ben, jusque-là, il y a, je crois, 2 ou 3 laboratoires qui font le travail de contrôle des qualités des médicaments. Il y a le laboratoire de l'OCC, n'est-ce pas? Il y a le laboratoire qui est en principe privé, mais que je crois que le ministère de la Santé a agréé. Et il y a le laboratoire de la faculté de pharmacie à l'université de Kinshasa. Ces 3 laboratoires-là, tant soit peu, arrivent quand même à contrôler les médicaments avant qu'ils soient mis sur le marché. Mais je voudrais revenir là-dessus pour dire, une fois j'ai suivi le directeur... de la 3e direction, qui est la direction qui s'occupe de médicaments et de la pharmacie, il disait dans les médicaments qui entrent officiellement au pays, il a parlé de moins de 5% des faux médicaments qu'on constate. Mais le phénomène est celui-ci. 90% des médicaments qui entrent dans le pays ne passent pas par le circuit officiel. Ça signifie que le moins de 5% des faux médicaments qu'il a constaté, c'était sur les 10% des médicaments qui entrent dans le pays.
Qui sont passés par le contrôle.
Alors, si vous imaginez que les 90% qui ne sont pas passés par le contrôle, c'était pour la simple raison que c'était des faux médicaments, ça signifie que 90% des médicaments qui entrent dans le pays sont des faux. Et ça, la population est réellement exposée.
Voilà. Docteur Richard, vous êtes ici à Kinshasa, Lumpumpu est à Kindu, Benoît est à Fungurume. Je crois que ce dossier, c'est vraiment un dossier très très important qui demande des grandes réflexions, des grandes mesures pour voir comment protéger la population. Je me rappelle même, pour vous compléter, ce qu'a déclaré l'ancien président français Jacques Chirac, qui milite d'ailleurs pour ce problème de la circulation des faux médicaments. Non, il dit que l'Afrique est exposée très très dangereusement par ces problèmes de faux médicaments, et il a utilisé le terme de fléau pour dire le problème de faux médicaments en Afrique, c'est vraiment un fléau. Mais malheureusement, les réponses au niveau du pouvoir public dans la lutte contre ces fléaux, ce sont les réponses qu'on sent qu'elles ne sont pas, peut-être, je peux dire, elles ne sont pas assez adaptées. Des fois même, on sent certainement que ce n'est pas une grande préoccupation. Faudrait-il des états généraux? Faudrait-il quoi au niveau pour réveiller les gens par rapport à ces fléaux avant qu'on puisse écouter les auditeurs?
Ben, malheureusement, c'est vraiment ça le constat. La réaction de la part du pouvoir public est celui de dire est-ce que réellement les médicaments tuent? Nous avons entendu des réponses comme ça au sein même de la population. Quand vous expliquez à la population le danger d'un faux médicament, quand vous expliquez à la population le danger d'un médicament périmé, d'un médicament mal conservé, la population vous pose la question, mais où est-ce que nous avons vu le médicament tuer quelqu'un? Ça signifie tout simplement que les malades qui meurent réellement de faux médicaments, qui meurent réellement de médicaments mal conservés, parce qu'il y en a beaucoup, le médicament, même s'il était bon, bien fabriqué, même s'il était bon à l'importation, mais quand il a fait une année dans le pays, quand il a fait 2 ans dans le circuit dans le pays, comment il a été conservé? Ça aussi, ça détermine l'efficacité du médicament. Il est devenu peut-être un toxique parce qu'il a été mal conservé. Et tout ça, ça peut amener à la mort. Mais la population elle-même vous pose la question. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Ça signifie tout simplement qu'il y a un travail de documentation
qu'il faut faire
en la matière. Et il y a un travail de sensibilisation de la population qu'il faut faire.
Ouais. Docteur Richard Lompompou et Bénon vous accorde la parole. 081-890-7315.
Parole aux auditeurs.
Vous êtes avec nous, vous nous appelez de Kinshasa. Docteur Richard, bonjour. Docteur Richard, bonjour. Voilà, le temps que la réalisation peut-être puisse rappeler sa ligne téléphonique, on va passer à Lompompou qui est à Kindu dans la province de Maniema. Bonjour Lompompou.
Bonjour messieurs.
On vous écoute, oui.
Je voulais intervenir pour ce cas.
Oui.
Le ministre veut construire une maison sans fondation. Pourquoi je le dis? Les produits pharmaceutiques sont devenus un danger grave pour la population. Parce qu'il n'y a pas les gens qui contrôlent comme il faut. Dédé, ceux qui fabriquent les produits pharmaceutiques ne fabriquent pas les produits consistants, même en milligrammes. Il y a aussi les vendeurs. Les gouvernements ne font absolument rien pour contrôler même les vendeurs. Ils ne forment pas les gens qu'il faut pour vendre les produits, tels qu'ici à Kindu. Les ramasseurs vendent les produits n'importe quand et n'importe comment. Et la population est en danger. Partout, la population, quand vous allez à l'hôpital, il y a l'hypotension, l'hypertension. Trop de maladies causées par l'utilisation abusive des produits pourris, non contrôlés. C'est ce qui a causé tout ça. Si le gouvernement met en place toutes ces démarches, je penserais que ça va réussir. Mais au Congo, comme on ne paye pas et on ne forme pas les gens capables, ils ne feront absolument rien. Quand ils passent dans des portes de pharmacie, ils reçoivent quelques montants, ils mettent dans leur poche sans entrer dans le trésor public. C'est cela que le gouvernement construit, une maison sans fondation.
Voilà, merci beaucoup Lompompou. Vous pensez que les mesures, on peut le prendre maintenant, mais comme il y a beaucoup de paramètres qui passent par la formation de ceux qui doivent travailler dans le domaine, mais surtout aussi l'encadrement. L'encadrement est très important parce qu'on sait comment les inspecteurs dans les différents domaines travaillent dans notre pays. Si quelqu'un se présente dans une officine, et tout de suite il embête et puis après on règle cette histoire la main dans la main, on sait comment ça se passe, on ferme les yeux et... Et la situation va continuer ainsi. Et vous avez peur que les mesures prises dans ces conditions où d'autres paramètres ne sont pas respectés ne puissent pas porter vraiment de fruits. Merci beaucoup, Lompompou Benoît. Vous êtes à Fungourmé, dans la province du Katanga. Bonjour, Benoît.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un grand honneur pour moi de participer à l'émission Parole aux auditeurs de Radio Katanga.
Merci. On vous écoute. Quoi...
Oui, c'est un sujet en tout cas très important et très pertinent. Parce que vous savez que dans un État qui se respecte, l'État est le seul garant de la sécurité médicale de sa population. Mais nous soyons plus la décision du ministre Félix Kabangé. Peut-être que je peux me démarquer un peu de mes prédécesseurs, parce qu'on a toujours dit qu'il n'a jamais été tard pour mieux faire dans la vie.
Oui.
La décision du ministre, bien qu'elle est arrivée en retard, c'est une bonne décision que nous saluons. Mais nous ne voulons pas que cette décision s'arrête seulement au niveau de Kinshasa.
Oui.
Parce que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Il y a tant de provinces, surtout nous qui sommes, par exemple, au Katanga. Il y a tant de choses qui se passent ici. Et surtout, mes prédécesseurs l'ont souligné, la commercialisation des produits médicaux. C'est un problème qui se passe, en tout cas, qui se pose avec la cité. Je peux vous donner un exemple, surtout quand vous allez dans des villages. Ce sont peut-être des croix rouges, des gens qui ne sont pas formés, qui vendent des médicaments. Il y a des médicaments qui sont étalés au sol. Et tout ceci contribue à la dégradation de la santé. Parce que l'un de mes prédécesseurs plutôt l'a même souligné. Nous qui avons grandi au Katanga, et particulièrement moi, je suis à Fungourou, mais si je travaille, je côtoie avec les Sud-Africains du TFM ici. Ils vous disent que dans les années 60, 70, ils venaient se faire soigner à Lubumbashi, au Congo. Mais actuellement, c'est le contraire. C'est nous qui sommes obligés de quitter pour aller nous faire soigner à l'extérieur. La décision du ministre, en tout cas, c'est une bonne décision que nous saluons. Bien que les autres peuvent dire que non, il y a le problème d'emploi qui se pose. Moi, je pense que pendant tous ces temps ici, ces gens ont mis en danger la vie de la population congolaise. S'il faut peut-être faire des statistiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a tant de gens qui meurent à cause toujours de ces produits-là. Oui. Ils n'ont pas d'état de péremption, ce sont des produits peut-être mal fabriqués ou mal conservés. Moi, j'encourage les ministres, et surtout les ministres aussi doivent frapper plus sur son administration. Parce que si c'est lui qui vient constater ça, je pense que Félix Kabange n'est pas le premier ministre de la Santé. Il y a tant de ministres qui sont passés par là, et qu'ont-ils fait? Et ce qui est grave encore, la plupart des ministres qui sont passés au ministère de la Santé, ce sont des professeurs d'université. Quand vous prenez leur nom là-bas, vous voyez leur parcours universitaire, bon, ça fait honte quand même pour ce pays. Mais néanmoins, il n'a jamais été tard pour mieux faire dans la vie. Et le ministre s'est ressaisi, ils prennent en tout cas des choses en main. Je pense que si lui, dans son secteur, peut faire quelque chose, et les autres dans leur secteur, je pense que nous pouvons atteindre l'idéal de notre hymne national pour mieux vivre quand même dans ces beaux pays que Dieu nous a donnés.
Merci beaucoup, Benoît. On écoute aussi rapidement Jeff qui est à Kindu dans la province de Maniema. Bonjour, Jeff.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute en une minute parce qu'on tend vers la fin de l'émission. Votre point de vue par rapport à l'impact de cette décision dans l'assainissement du secteur pharmaceutique.
Ok. Mon point de vue, d'abord, j'encourage l'ordre du ministre. Alors, je lui demande, ou soit je lui sollicite de mettre ça en application. Parce que d'ici là, on a fermé ces entreprises, ces usines de fabrication de médicaments. Après 3 ou 4 semaines, on va encore voir les portes de ces maisons sont ouvertes. Alors que le ministre prend au sérieux la décision.
Voilà. Merci, merci beaucoup, Jeff. Vous souhaitez que le ministre maintienne la décision, qu'elle soit suivie et exécutée. On termine cette émission avec vous, Maurice. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, JR. C'est comme les autres l'ont dit. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que la décision elle est salutaire. Mais néanmoins, on émet quand même un certain nombre de réserves ou des doutes. Parce que les gens savent bien les manques de sérieux qui caractérisent quand même ce gouvernement. Et on prend des décisions juste pour impressionner. Et à la fin, quand vous suivez derrière ces décisions, il n'y a rien qui se passe. Moi, je pense qu'il faut qu'on nous amène parfois aussi des adresses de ces laboratoires. Comme ça, après 2-3 mois, qu'on aille vérifier. Comme ça, on rapporte ça à l'émission ici pour qu'au moins le public ou la population soit quand même... convaincu de l'effectivité vraiment de cette décision. Au lieu qu'on vienne, par exemple, nous amener toujours des décisions, et par après, on constate que rien ne se passe de concret. Hein, Dieu.
Voilà. Merci, Maurice. D'ailleurs, s'il nous était permis de pouvoir donner la liste des usines qui sont concernées, on les aurait données dans cette émission. Je crois que c'est passé au niveau des news des Radio Capi. Il y a la liste, d'ailleurs, parmi ces laboratoires qui sont concernés, il y a même un laboratoire qui était fermé 3 mois avant. Et selon le rapport de la commission, qui a beaucoup évolué, et il y a même des médias qui sont passés se rendre compte que ces laboratoires ont amélioré vraiment ces bâtiments. Ils sont en train de travailler pour pouvoir répondre aux normes qui sont exigées au niveau du ministère de la Santé. Mais merci beaucoup, Maurice. Nous souhaitons qu'on pourra revenir dans cette émission pour faire le point autant de mois après si la situation s'est améliorée sur le terrain, parce que nous avons la liste de ces usines qui sont concernées. Nous disons merci à tous les auditeurs. Vous avez été très nombreux à donner votre point de vue dans cette émission. On revient à vous, Faustin et Kabeya. On a écouté les uns les autres. On se rend compte de plus en plus quand on parle du secteur, des fois peut-être c'est ça le problème, les gens ils voient la gravité quand on en parle. Quand on n'en parle pas, les gens ne sentent pas que c'est sérieux. Mais en écoutant les uns les autres, en vous écoutant, on se rend compte que
c'est vraiment sérieux, c'est un problème très très sérieux, très très important pour lequel il faudrait beaucoup marteler, beaucoup se consacrer. Et pour terminer cette émission, si je pourrais vous demander en termes d'efforts qui doivent être fournis de part et d'autre, il y a le ministère de la Santé, il y a l'environnement, il y a la corporation, il y a la population, chacun ce qui les concerne, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on arrive quand même à protéger la santé de la population en deux minutes.
Ok, je crois que il y a une chose qui est revenue, une proposition qui est revenue de la bouche des auditeurs, pourquoi pas de ma propre bouche et de la vôtre aussi. Et il faut absolument que le ministère de la Santé revoie le fonctionnement de son administration. Mm-hmm. Il faut que les sanctions tombent, parce que ce qui s'est passé, c'est tout simplement une défaillance dans les inspections des routines. Et il faudrait que aujourd'hui le ministre a fermé, demain on réouvre, mais les inspections des routines soient régulières et strictes, n'est-ce pas? Cela pour la bonne santé de la population. Donc il faudrait absolument que le ministre se mette derrière son administration pour voir le travail bien fait et de manière durable. Ça c'est très important. Vous savez, dans ce pays, finalement, la définition de la pharmacie n'est plus la définition légale. C'est pas la définition que le magistrat au parquet pourrait donner à une pharmacie. Pourtant, on le voit. Quand je sors d'ici, je ne ferai pas un kilomètre avant de voir une boutique sur laquelle on a écrit pharmacie. Tout le monde passe par là. Le magistrat, le juge, le policier. Tout le monde passe par là. Mais personne n'entre pour dire, mais monsieur, vous êtes en train de violer la loi là où vous êtes. Personne ne passe pour le dire. Même le contrôle de cela est fait. Et par l'autorité réglementaire qui représente le ministre, même dans la ville de Kinshasa, on parle du pharmacien inspecteur urbain. Le pharmacien inspecteur urbain, il passe par là. Mais il n'ose pas entrer pour demander à monsieur de fermer et ou d'effacer carrément le nom pharmacie parce que ça ne répond pas aux normes. Au contraire, il y a même la notion de pharmacie non autorisée mais pharmacie reconnue. Tout simplement parce que le pharmacien inspecteur passe par là et il prélève les taxes d'inspection. Et la pharmacie se dit, ben moi, à partir du moment où je paye mes taxes d'inspection, mais je suis reconnu même si je ne suis pas autorisé. Voilà.
C'est sérieux, je crois qu'il faut qu'on s'y penche pour trouver des solutions. Merci beaucoup Faustin Kabeya. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes pharmacien et président honoraire du conseil provincial de l'ordre des pharmacies, des pharmaciens plutôt ici à Kinshasa. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission, J.R. Lungembo, Titi Mputu, Jean-Claude Siala et Nicole Ngara qui étaient à la supervision. Nous allons nous retrouver demain, vous savez aujourd'hui c'est le lancement sur l'ensemble du territoire national des journées nationales des vaccinations contre la poliomyélite. Comment ça se passe dans votre milieu et qu'est-ce que vous proposez pour la réussite de ces journées? On se retrouve demain à 11h, 3 minutes, heure de Kinshasa. Au revoir.